BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On entame cette deuxième heure par un détour sur les marchés. C'est notre promesse à l'entame de chaque demi-heure de prendre le pouls de la séance en cours. Et aujourd'hui, on retrouve chez Pensampart Alexandre Le Drogoff. Bonjour Alexandre.
Bonjour Cédric.
Comment voyez-vous les choses se mettre en place? On sent qu'il y a quand même le poids de la Banque Centrale Européenne.
Oui, tout à fait. Et pas seulement d'ailleurs. On voit là donc la Bourse de Paris ce matin qui est en repli. Bon, dans le sillage des marchés américains qui ont aussi connu des clôtures mitigées hier soir. Depuis le début de la semaine, on peut sentir quand même une certaine nervosité des opérateurs. Alors, depuis la publication des derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis, de l'activité aux États-Unis, ces chiffres laissent présager un resserrement monétaire prochain de 75 points de base du taux des Fed Funds. Et on s'attend également à ce que la BCE réplique également. Donc, une petite nervosité qui devrait continuer de s'installer sur les marchés financiers pour les prochaines semaines. Alors ce soir, nous aurons de nouvelles indications sur la santé de l'économie américaine avec la publication du livre beige de la Fed, et ces indications devraient générer encore cette volatilité pour la fin de la semaine. Donc dans ce contexte, nous surveillerons la zone technique des 6030 points sur le CAC qui constitue le principal plancher court terme pour le marché français, et il faudra impérativement éviter de l'enfoncer sous peine de revenir au contact des points bas de l'année, la zone des 5800 points.
Voilà quelques idées. Après, il y a des dossiers qui méritent peut-être qu'on regarde ce qui se passe. D'abord Ubisoft.
Oui, alors Ubisoft, c'est la déception du jour. Cette déception, elle intervient après que Ubisoft ait annoncé hier que le géant chinois des réseaux sociaux Tencent avait pris une participation dans la holding familiale Guillemot à hauteur de 49,9% du capital. L'investissement de Tencent dans la holding Guillemot va s'élever à 300 millions d'euros. Ces annonces, en fait, verrouillent à présent le capital d'Ubisoft et coupent court à son profit spéculatif. Voilà pourquoi le titre est en forte baisse ce matin.
Alten également, que vous souhaitiez aborder.
Oui, puisque c'est un changement de reco au bureau d'analyse chez Pensampart. Donc notre analyste est passé à l'achat contre renforcé. La société bénéficie d'un environnement de marché qui est plutôt favorable avec les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique qui ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant Covid. D'autre part, aucun signe de ralentissement à date. Bon, le groupe maintient d'ailleurs son rythme de recrutement et a un bilan toujours extrêmement sain. Voilà, notre nouvel objectif de cours est 143,90€.
Donc, Ubisoft et Alten mis en lumière, et puis on termine avec un petit mot d'Holot.
Oui, Holot qui recule d'un peu plus de 6%. Alors, c'est une publication décevante sur les marges. On s'attendait à un ROC en hausse de 11,4 millions d'euros. Il est ressorti en contraction de 800 000 euros. Bon, la principale raison de cette déception provient de l'inflation des coûts et de la difficulté de la société à la répercuter à ses clients. Dans ce contexte, on préfère revoir notre recommandation à la baisse à conserver contre acheter avec un nouvel objectif de cours à 3,60.
Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Le Drogoff et Pensampart qui nous accompagnaient ce matin. Le marché qui reste en baisse pour le moment, 0,43%, 6078 points. Et tout de suite, l'info éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, Bercy donne son feu vert à l'indemnisation des cyber-rançons. Selon les Échos, le ministère de l'Économie est favorable à la prise en charge des rançons en cas de cyberattaque, à condition que l'entreprise victime porte plainte. La mesure figure dans un projet de loi qui sera présenté ce matin en Conseil des ministres. Autre texte proposé, la réforme de l'assurance chômage. Pour l'instant, le projet de loi prolonge les règles liées à la précédente réforme qui avait déjà durci les conditions d'indemnisation. Mais le gouvernement veut aller plus loin en modulant l'assurance chômage en fonction de la conjoncture. Vladimir Poutine et Xi Jinping vont se rencontrer. L'entrevue aura lieu le 15 et le 16 septembre prochain. Ça sera en Ouzbékistan à l'occasion d'un sommet régional. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger pour le président chinois depuis le début de la pandémie. Vladimir Poutine juge stupide l'idée d'un plafonnement des prix du gaz russe. Cette proposition conduirait à une nouvelle hausse des court, estime le président russe. Il est impossible d'isoler la Russie, a-t-il ajouté. Il s'exprimait lors du Forum économique oriental à Vladivostok. Dans l'actualité, entreprise, une assemblée générale sous haute tension aujourd'hui pour Richemont. Le groupe de luxe fait face à deux fonds activistes, Bluebell et Artisan. Ils veulent changer la gouvernance et engager des cessions d'actifs. Le pétrolier espagnol Repsol vend 25% de sa branche exploration-production au fonds d'investissement américain EIG, montant de l'opération 4,8 milliards de dollars. L'accord prévoit aussi une possible IPO aux États-Unis à partir de 2026 si les conditions de marché le permettent. Et puis ce sera l'événement de la soirée dans la tech, la keynote d'Apple. Les nouveaux iPhone 14 seront dévoilés ainsi qu'une première Apple Watch Pro. Côté technologie, on n'attend pas de grande révolution. En revanche, le prix des iPhones pourrait augmenter à 1 100 $. C'est 100 dollars de plus que les générations précédentes. Émission spéciale de Tech & Co à suivre ce soir à partir de 20h sur BFM Business. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot avec nous chaque matin pour suivre les évolutions de l'info. Le marché parisien perd 0,43%, 6078 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Thibaut Prébet et Sébastien Corchia sont en plateau. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric. Bonjour,
Sébastien Corchia pour UBS, la maison de gestion. Thibaut Prébet pour Financière Arbevel. Bon, on attend la Banque Centrale Européenne, c'est ça? C'est ce qui génère cette forme d'attentisme autour des 6100?
Oui et non, parce que on sait à peu près ce qu'elle va faire, soit elle remonte de 0,50, soit de 0,75, mais de toute façon, c'est le mouvement qui est annoncé, on le sait, et en plus, on sait aussi que malheureusement, ça sera sans effet, c'est-à-dire que remonter les taux pour calmer l'économie, autant c'est peut-être efficace aux États-Unis, autant en Europe, quand les maux viennent de l'énergie, vous pouvez remonter les taux autant que vous voulez, vous allez encore plus casser l'économie, mais ça va pas être curatif. Donc, je crois que les marchés, bien sûr, attendent un peu ces rendez-vous-là, mais au-delà des taux, vous savez que dans les politiques monétaires, et c'est valable en Europe comme aux États-Unis, et c'est ça qu'il faudra quand même regarder pas mal, vous avez deux composantes, vous avez la composante prix et la composante volume. La composante prix, c'est la hausse des taux, ou la baisse, en l'occurrence ici la hausse, et puis vous avez le volume, c'est-à-dire toutes ces liquidités qu'on a mis pendant des mois et des années sur le marché. Il y a quand même une partie de ce discours qui manque dans la politique monétaire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce quantitative easing, le QE, et qu'est-ce qu'on va faire de cette liquidité? Par exemple, aux États-Unis, on voit que la politique monétaire, elle est un petit peu efficace, entre guillemets, mais pas assez. Il faut remonter fort et vite. Peut-être qu'il faudra regarder dans ce discours qu'est-ce qu'on va faire sur le retrait de liquidité. En Europe aussi, il faudra l'écouter, ce discours-là. Donc, au-delà de la hausse des taux, pour vous répondre, il y a le volume de liquidité, qui est un sujet mal abordé, mal pricé par le marché, et puis tout simplement l'efficacité de tout ça dans un contexte et toutes les variables qui sont face à nous et qui sont extrêmement compliquées et qui rendent finalement les banques centrales data dépendantes, c'est-à-dire que elles font leur politique au gré des chiffres qui tombent, et c'est valable pour nous les boursiers, c'est que derrière on fait un peu notre gestion au gré aussi des chiffres qui tombent, ça veut dire qu'il n'y a pas de visibilité. On y reviendra après.
Thibault, votre regard sur cette période, effectivement, où le marché semble attendre quand même.
Oui, absolument. Il semble attendre et il fait avec cette difficulté qu'on a des statistiques qui vont quand même globalement tout dans le bon sens aux États-Unis, avec plutôt une activité qui est loin de plonger et des composantes inflation qui elles-mêmes rebaissent, ce qui est un peu le mix qu'on voulait absolument et qui est l'opposé de ce qu'on avait au cours, par exemple, du deuxième trimestre. Et à côté de ça, en Europe, bah, effectivement, des chiffres de l'énergie qui ont une telle ampleur que tout le reste passe un peu sous le tapis et qui sont très préoccupants. Et à côté de ça, du coup, une devise qui fait un peu le grand écart, ce qui finalement n'arrange ni l'un ni l'autre. Donc on est revenu dans une espèce d'élastique un peu complexe. Ce qui est sûr, c'est que dans ce cadre-là, la réunion de la Fed, et on a énormément de membres de la Fed qui vont parler, savoir dans quelle mesure les dernières statistiques plutôt rassurantes contribuent à les rassurer un peu, ou s'ils disent on s'en fout complet, on va y aller tant qu'on n'a pas au moins 6 mois de plus. Donc ça, c'est une question. En Europe, c'est vrai que on a la seule logique qu'on peut envisager l'action de la BCE, c'est deux choses. La première, c'est que monter les taux est peut-être un terme fort. Peut-être que réguler les taux, renormaliser les taux serait quelque chose de plus cohérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on était encore avec des taux négatifs dans un marché où il y avait 5 à 10 d'inflation et 3 de croissance, ce qui n'a quand même objectivement aucun sens. Voilà. Après, est-ce qu'on sera restrictif? Est-ce que ça va impacter l'énergie? Non. En revanche, on peut se dire aussi qu'il y a cette histoire de boucle prix-salaire et qu'il est nécessaire que la Banque centrale montre qu'elle veut calmer le truc, ne serait-ce que pour la boucle s'enclenche pas ou pas trop facilement. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, une grosse partie de ce qui est en train de se jouer dépend plus de ce que les ministres européens pourront réussir à trouver comme entente sur les prix de l'énergie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme action, comme mécanisme.
Donc ce qui est plus important, c'est l'arène plutôt que la BCE.
En réalité, aujourd'hui, c'est rarement le cas, mais on est en cette phase qui a démarré depuis le Covid, où parfois les actions concertées en Europe qui peuvent être mises en place, et de manière assez cohérente, hein, depuis 2 ans, sont parfois à nouveau un outil important, alors que la cacophonie faisait que c'est la Banque centrale qui faisait tout. Aujourd'hui, peut-être que les mots européens sont plus entre les mains du pouvoir politique que du pouvoir monétaire.
Malgré tout, il y a quand même une question de crédibilité dans cette action de la Banque Centrale Européenne, parce que si le scénario est le suivant, c'est une hausse de 75 points de base et dans les heures immédiates qui suivent, un euro qui continue sa glissade et ceci et cela, et des prix de l'énergie qui restent très élevés.
En fait, ce que j'essaye de faire, c'est pas efficace d'augmenter les taux dans ce contexte, comme je l'ai dit, ouais. On le sait. Je pense qu'effectivement, la Banque Centrale, elle est coincée. Il ne faut pas quelque part qu'elle les remonte, mais de l'autre côté, elle a envie de les remonter parce qu'il faut essayer de défendre quand même cette parité euro-dollar, défendre l'euro, parce que plus le dollar est fort, plus finalement l'importation d'énergie coûte cher. Donc il faut essayer quand même de booster un peu cet euro. Malheureusement, quand vous remontez les taux, au même moment, les États-Unis les remontent. Et puis la réalité, c'est que les flux se dirigent vers le dollar parce que c'est l'économie européenne qui est en difficulté. C'est sur son territoire qu'il y a plein de risques. Le risque de la guerre, naturellement, le risque d'un incident nucléaire qu'on ne peut pas probabiliser, qu'on ne veut surtout pas probabiliser, mais qui serait dramatique pour l'Europe. Le risque d'un mini Lehman énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de sociétés énergétiques qui font face à des appels de marge, en fait, hein, qui doivent déposer des liquidités pour assurer, en fait, toutes les transactions à des prix mirobolants sur l'énergie, et ça commence à faire peur, et ça peut faire peur même au système un peu financier européen.
On va avoir une sacrée trésorerie, quoi.
On va avoir une sacrée trésorerie, mais là on parle plus de dizaines ou de centaines de millions, on commence à parler en milliards, dizaines de milliards, voire centaines de milliards d'euros qui sont sur la table tous les jours pour assurer ça. Donc c'est pour ça que certains commencent à évoquer des risques un peu là-dessus. Donc vous voyez que les risques en fait sont plutôt en zone euro et en Europe qu'aux États-Unis, et donc tout ça est favorable au dollar. Vous pouvez remonter les taux pour essayer de défendre un peu votre parité, pas faire trop d'inflation importée, c'est compliqué. Et c'est là que je dis, en fait, vous avez sur les marchés, vous avez deux types de données en permanence, les données économiques et financières et les données extra-financières. Économiques et financières, c'est le brouillard absolu. C'est le brouillard absolu, et c'est des divergences de politique monétaire, c'est des divergences de raisons et de réponses. Et puis, sur les données non financières, vous avez là aussi énormément d'inconnus. Je citais la guerre, je cite le risque nucléaire, je cite le risque Lehman énergétique, je cite le Covid en Chine, où vous voyez, il y a quelques jours, vendredi dernier, ça y est, on referme des villes parce que, et ça a des impacts sur toute la chaîne auto, etc., etc., etc. C'est très, très compliqué pour le marché, cette fois-ci, d'avoir du tonus, un peu du positif et de la visibilité. Il n'y en a pas, hein, en fait.
C'est vrai qu'il y a quand même un nombre hallucinant de critères, d'écrans à regarder en ce moment pour un investisseur.
Ouais, alors, je ne suis pas complètement sûr dans le sens où il y a toujours des crises, on le connaît, hein, on a parlé sur ce plateau du Brexit, de trucs qui étaient très préoccupants des centaines de fois. Le problème, c'est qu'il y a quand même des différences de magnitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, le sujet de l'énergie, quand il y a des sociétés qui ont 2, 3, 5% de leur coût de chiffre d'affaires qui est sur l'énergie et qu'on a des prix qui font x10, x15, x20, très honnêtement, il y a certains des autres sujets qui deviennent totalement mineurs ou peu significatifs en comparaison. Typiquement, l'Asie était un sujet central quand il y a une dynamique très forte économique et qu'ils n'arrivaient pas à suivre et que ça créait de l'inflation sur le transport, sur les prix, des non-disponibilités. Aujourd'hui, avec une économie qui a ralenti et des coûts de l'énergie qui ont explosé, savoir si en Asie, alors face à un ralentissement où les prix des conteneurs sont effondrés, si ça peut faire un ralentissement, c'est évident. Mais la magnitude est quand même moins forte. Et je crois que c'est ce que disait très bien Sébastien. C'est-à-dire que quand on parle d'un Lehman de l'énergie, effectivement, on sait que quand une boîte a un problème, elle a un problème. Quand toutes les boîtes ont le même problème, en général, on a des solutions politiques. Mais néanmoins, c'est un risque majeur.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, le confinement en Chine est un risque qui est d'une amplitude qui, en comparaison, est moins forte. Alors que c'était peut-être le risque principal à certains moments, ce qui montre aussi qu'on a, on a escaladé vers une microéconomie qui a fourni un gros soutien sur l'été, mais effectivement des risques, on va dire, hors micro, qui sont aujourd'hui assez significatifs.
Quand vous dites sur ces courtiers en énergie, etc. Enfin, je veux dire, au moment de Lehman, toutes les banques avaient le même problème entre guillemets aussi. On avait eu des signaux d'alerte autour quand même des subprimes avec quelques fonds qui n'arrivaient pas à côté dans l'été précédent, etc. Et puis ça n'a pas empêché tout de même, sans que personne ne l'ait quasiment vu venir, quelque chose de se produire.
Oui, enfin, il me semble quand même justement que c'est l'acte fondateur.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est au moment où justement il y a eu Lehman que tout le monde s'est rendu compte que le coût pour régler un peu le sujet par rapport au coût pour le réparer après, était d'une ordre de magnitude. Donc je pense que tout le monde a bien compris ça, et on l'a bien vu avec la crise de la zone euro, avec la Grèce, avec les crises Covid, que la réponse politique maintenant est quand même de considérer qu'il vaut mieux traiter le problème que ses conséquences, surtout quand on a des ramifications mondiales. Très clairement aujourd'hui, faire péter des courtiers, donc des banques, plutôt que gérer une situation énergétique qui de toute façon touche le particulier, tout le monde, ça me semble pas quelque chose. Donc je pense que justement 2008 est l'acte fondateur qui fait que ça se reproduira pas. Elle est pas l'exemple qu'on va suivre parce que tout le monde a bien compris que c'était pas un exemple génial. Puis dernier point, soyons vigilants dans le discours sur ce qu'on dit, il faut être précis. Aujourd'hui, il y a pas vraiment une grosse crise de l'euro. Il y a un gros sujet de force du dollar. Parce que des devises qui montent face au dollar, une fois que vous avez fait le Mexique et deux ou trois pays sud-américains, vous avez quand même vite réglé le sujet. Et à côté de ça, vous avez des zones comme le yen qui baisse très fortement, même par rapport à l'euro. La livre sterling, qui est quand même en train d'atteindre des niveaux qui, quand on était jeunes, nous paraissaient assez délirants. Et même sur les autres devises d'Asie, on n'a pas non plus une vigueur. Donc c'est vrai que l'euro n'est pas une des devises les plus solides, c'est évident. Enfin, à pas face à un panier de devises aujourd'hui, un comportement qui sort du lot. L'anomalie aujourd'hui, objectivement, c'est plus le dollar que l'Europe, ce qui pourrait être un peu contre-intuitif, puisque le problème est en Europe. Mais la réalité, c'est que les États-Unis gardent ce fort pouvoir d'attraction dans des périodes géopolitiques compliquées qui font qu'au final, c'est quand même bien eux qui attirent les capitaux plutôt que l'Europe qui les repousse pour l'instant.
Voilà pour ce contexte lié à la Banque Centrale, enfin, qui découle, entre guillemets, des interrogations du marché sur la Banque Centrale Européenne et sur ses prix de l'énergie. Il y a une autre zone qui peut être préoccupante, c'est la Chine. On est dans une période assez particulière avec ce congrès qui arrive et la reconduction, la réélection, je ne sais pas comment il faut dire, de Xi Jinping. Au même moment où on est toujours dans une forme d'économie un peu dans le marasme, où il y a des mesures de soutien qui semblent peiner à convaincre. Comment voyez les choses sur cette Chine ?
C'est effectivement compliqué. Il y a des signaux très clairs, statistiques, économiques, qui montrent que le ralentissement est là. Il suffit de regarder des données d'importation de métaux, des données d'importation du charbon et autres, et on voit que la demande n'est pas là. Et effectivement, il y a un rendez-vous politique. Je rappelle au passage qu'il y a beaucoup de rendez-vous politiques aussi qui sont là aussi, un des éléments de brouillard, notamment les mid-termes aux États-Unis. Et tout ça arrive un peu au même moment.
Oui, les élections en Italie, les mid-termes.
Les élections en Italie, absolument.
Mais nous étions en Chine.
Et donc la bourse n'aime pas trop ça non plus. Pour la Chine, effectivement, il y a un ralentissement. Alors attention, il y a une vraie volonté politique. Je pense que la Chine soit en capacité, quoi, soutiennent son économie, ça va très vite quand c'est décidé. C'est vrai que ça a du mal à se déverser parce que il y a eu des phénomènes climatiques qui sont venus perturber tout ça, qui sont venus perturber la mise en place de plans de relance, l'activité économique, et puis il y a cette volonté aussi de nouveau de pas avoir de Covid, toujours cette politique zéro Covid qui grippe un peu tout. Donc la lecture est compliquée et sur les marchés, il n'y a pas cette traduction non plus très très claire que tout le monde vous dit qu'il faut jouer un peu la Chine parce que c'est quand même là où il y a de la croissance et une forme de visibilité, mais ça se joue pas parce que vous avez une composante valeur technologique notamment qui vient brouiller les pistes. En fait, il faut c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. Il y a derrière tout, puis il y a une crise immobilière sous-jacente qui essaye d'être un petit peu atténuée, mais qui est là. Par contre, il y a quand même des éléments très forts dans cette économie chinoise. C'est tout ce qui est la décarbonisation, tout ce qui est l'énergie verte, où là, il y a une longueur d'avance qui est en train d'être prise, qui est assez fantastique, sur la mise en place de parcs solaires, de parcs éoliens, en fait, du zéro carbone. Aux États-Unis, par exemple, vous avez un gros problème aujourd'hui. On a mis des éoliennes, mais on n'a pas de capacité de transporter l'énergie, d'où l'éolienne fabrique l'électricité, à d'où on en a besoin. Et donc vous avez des zones qui ont des surplus d'électricité et d'autres qui n'en ont pas. Problème de lignes hautes, voire très très hautes, ultra haute tension. En Chine, c'est presque 10 ans d'avance ou 20 ans d'avance sur tout le monde. Là où nous, on a des problèmes parc énergétique nucléaire. Donc derrière cette économie qui a du mal, il y a des pans entiers. On voit que l'économie chinoise est en train de muter. En train de muter sur ses activités de défense, sur ses activités énergétiques et autres, et de prendre finalement, de regarder beaucoup plus loin, de regarder à 20 ans ou à 30 ans, ce qui finalement est en adéquation avec leur pouvoir politique, qui donne de la visibilité. Donc il y a deux Chines, il ne faut pas regarder que soit l'indice chinois, soit les données à court terme.
Un regard sur cette Chine
La Chine, il faut avoir en tête que, au final, il faut la résumer simplement aujourd'hui. C'est une zone qui devait rebondir fortement au second semestre et qui a ce rebond qui est un peu obéré par deux choses. Tous les éléments qui ont été évoqués brillamment, que je ne reviendrai pas, mais aussi surtout, effectivement, cette crise immobilière. Parce qu'on sait que la crise immobilière reste la mère de toutes les crises, que quelqu'un qui voit son bien perdre 30, 40, 50...
Vous avez dit, il y a des questions démographiques
qui... Ce qui arrive en Chine, quand vous avez 30, 40, 50% de baisse de votre bien immobilier, globalement, vous êtes obligé d'épargner un peu plus parce que vous vous sentez moins riche et donc vous dépensez un peu moins, etc. Et donc ça, c'est quand même un facteur énorme. Et effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est que vous avez encore eu des études faites en Chine qui évoquaient l'idée d'une population autour de 400 millions en 2100 contre 1,4 milliard aujourd'hui. Si vous calculez, ça vous ferait potentiellement quasiment 1 milliard de personnes en moins en 80 ans. Donc on est sur des rythmes à des baisses à 15-20 millions assez rapidement par an. C'est pas très facile de rattraper un marché immobilier ou de le faire monter quand vous avez, tous les 3 ans, vous perdez la population d'un grand pays, quoi. Donc ça va quand même poser des difficultés, c'est challenging. Et ça, c'est quand même en train un peu de plomber le retour à meilleure fortune de l'économie chinoise. Donc une économie qui a du potentiel, qui a beaucoup de technologie, qui a beaucoup d'atouts, mais qui reste quand même un peu empêtrée encore dans ces difficultés qui durent depuis un an, qui ont montré qu'elles n'étaient pas systémiques à l'échelle mondiale, mais qui reste quand même un boulet attaché au pied de la Chine qui est totalement massif et qui fait que pour l'instant, effectivement, on peut pas dire que ce soit un grand succès. En fin juin, beaucoup de gens disaient le premier semestre a été dur pour la Chine, le second, il va y avoir une croissance énorme, donc c'est le rebond, et c'est quand même une zone qui s'est fait éclater tout l'été pendant qu'on avait des rebonds qui certes ont rendu un peu de leur momentum en fin de période, mais qui ont quand même bien rebondi sur l'été.
Voilà donc quelques grandes idées à avoir en tête sur cette planète économique. Après, il faut quand même se dire un peu ce qui se profile devant nous. Comment vous voyez les choses pour cette fin d'année en bourse ?
Comme je vous l'ai dit tout au long de l'intervention, il y a un manque complet de visibilité. Il y a énormément de variables et beaucoup de variables non économiques et donc sur lesquelles c'est un peu blanc ou noir et probabilité 0-100 entre guillemets. Et donc c'est un manque total de visibilité, il ne faut pas se voiler la face. On peut établir plein de scénarios différents, on peut les probabiliser, mais la réalité, c'est de sortir un scénario plus dominant que les autres. C'est un exercice qui est assez difficile ou qui, en tout cas, est sujet à caution parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, regardez, encore une fois, même les banques centrales, elles réagissent au coup par coup et elles vous disent très clairement on est data dépendante. C'est-à-dire qu'on a nous-mêmes pas, on a déjà raté le premier coup qui était l'inflation est transitoire, elle l'est pas, et on voit que les chiffres, même la semaine dernière aux États-Unis, entre vous avez des chiffres de S&P Global qui vous dit certaines choses et puis vous avez des chiffres de l'ISM qui vous en disent d'autres. Donc très très compliqué d'avoir une lecture, et boursièrement vous le voyez. Comme il y a de l'inflation, mais il y a encore de la croissance dans le monde quand même et aux États-Unis, quand vous avez de l'inflation, les taux montent, c'est pas bon pour les valeurs de croissance. Et quand vous avez, donc vous dites, les marchés, ils avaient l'habitude d'arbitrer croissance, value cyclique, croissance. Et là, ils peuvent pas aller vers les valeurs de croissance et ils peuvent pas aller vers les valeurs cycliques, value, parce que en Europe ou un peu partout quand même, on vous dit, la croissance, elle est là, mais elle va ralentir, voire ça va être la récession, voire ça peut être une forte récession. Donc, ni la croissance, ni la value. Donc, vous voyez tout ce marché qui souffre. Et puis, des petits îlots, finalement, ce qu'on appelle la value défensive. C'est quelques valeurs de ci, de là, un archipel de quelques valeurs. Je sais pas, certains diront c'est les télécoms, d'autres diront c'est telle ou telle valeur prise indépendamment. Mais en fait, il y a pas grand chose où aller. Et donc, c'est pour ça que vous avez un effondrement aussi des volumes. C'est que les gens sont sur la touche, attendent. Et je crois que ça peut être une posture un peu d'attendre plutôt que de se dire je choisis un scénario, c'est celui-ci, et je l'acte avec forcément les valeurs qui vont avec. Ça peut être tout bon comme ça peut être tout faux. Donc, c'est du recul et un peu de patience, en fait.
Un peu de prévision ?
Oui, c'est vrai que ce qui est rassurant, c'est que les entreprises ont fait des très bonnes publications, qu'elles ont donné des perspectives pour la fin d'année qui sont restées très solides, alors que le marché anticipait quand même des dégradations. Donc maintenant, le consensus s'est dit, le problème, c'est 2023. Mais il n'est pas complètement dit que les secteurs qui marchaient très bien ne marchent plus. On pense aux semi-conducteurs ou autres, qui sont quand même boursièrement un peu attaqués. En revanche, c'est vrai que maintenant, dans cette période actuelle, pour retourner sur des secteurs de sidérurgie, d'automobile ou autres, il faut être quand même solidement accroché à son siège. Parce que quand il y a des pans entiers de l'activité qui vous disent « Nous, on arrête de tourner parce que ces niveaux-là d'énergie, on ne peut pas avoir d'activité », ça fait quand même pas tellement rêver. Et le fait de pas être cher est pas aujourd'hui quelque chose de totalement suffisant, puisqu'on voit bien qu'on a beau pas être cher, il y a toujours quelque chose qui vient poser problème. Donc on change pas notre fusil d'épaule et on fait un peu attention à ces secteurs où que peuvent être les banques, hein, qui paraissent quand même un peu systémiques dans la crise énergétique, parce que pour beaucoup de secteurs, si vous avez un résultat qui est obéré l'année même l'année prochaine de 10, 20, 30%, quand vous avez déjà perdu 30% de votre capitalisation, c'est-à-dire parfois 4, 5, 6 ans de valo, si vous avez 6 mois pas terrible, c'est pas très grave. En revanche, si ça remet en question la survie de votre entreprise, c'est tout de suite un petit peu plus embêtant. Et donc c'est pour ça qu'on garde des sociétés qui nous paraissent pouvoir suivre ce cycle de manière pertinente. Et effectivement, on ne fait pas des choix sinon très velléitaires dans un manque de visibilité. On garde notre confiance de long terme et on essaye de ne pas trop arbitrer dans une phase où il y a probablement, comme on le dit dans notre métier, beaucoup de portes de saloon à prendre, puisqu'on sait que quand les choses se règlent, ça va très vite. Et on peut vite être très surpris. Et si on a fait des choix qui ne sont pas forcément ceux qu'on a sur le long terme et qui ne se révèlent pas être les bons, on peut être très en difficulté.
Merci beaucoup à tous les deux. Thibaut Prébet, financière Arbevel, Sébastien Corcia pour UBS, la maison de gestion. Merci d'avoir participé à ce regard croisé. Dans un instant, un détour par les marchés. Et c'est Gilles Santacreux que l'on retrouve. Et vous n'oubliez pas non plus les podcasts qui sont à votre disposition pour retrouver au moment où vous le souhaitez, tout ou partie de l'émission. Ils sont disponibles bien sûr sur notre site ou sur nos plateformes partenaires.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Les marchés sont à la une à l'entame de chaque demi-heure et c'est Gilles Santacreux qui suit tout ça pour nous aujourd'hui depuis boursicoté.com. Rebonjour Gilles, et pour le moment, bonjour. Le marché reste certes pas loin de son plus haut du jour, mais ne parvient pas à aller nettement plus haut.
Oui, effectivement, on a testé tout à l'heure les 6100 et puis on est revenu sur la zone des 6080 points autour de laquelle on évolue actuellement. Depuis tout à l'heure, on a Engie hein, qui a pris un mouvement haussier assez fort. Sinon, pas grand-chose. On est toujours dans l'attente de la Fed, toujours avec les mêmes inquiétudes, les mêmes pressions, donc toujours ce biais baissier prédominant. Alors, si on fait un petit peu, une photographie du marché dans sa globalité, on a toujours donc l'euro dollar hein, qui continue à évoluer sous une pression baissière. On a touché 0,9863, donc on confirme l'évolution de la paire de devises sous la zone de parité. Depuis la cassure des 1,0120, moi j'ai un objectif moyen terme à 0,9694. Alors ça paraissait loin au début, mais là on n'est plus qu'à 200 pips hein, si on considère le plus bas. Tant qu'on est en dessous des 1,0090 sur l'euro-dollar, donc ça reste baissier. On peut noter aussi la baisse des matières premières qui pourrait influencer les marchés aujourd'hui. On a un WTI qui s'approchait des 91, un Brent qui s'est approché des 91, un WTI qui s'est approché aussi des 84 dollars le baril, qui est une zone majeure d'un point de vue moyen terme. Et puis, on pourra noter aussi le Bitcoin, hein, qui est venu toucher une zone sensible, la zone des 18 500 dollars pour un Bitcoin. C'est une zone qui est sensible, puisqu'une cassure de ce niveau, eh bien, pourrait valider un objectif que je donne depuis longtemps, depuis le début du mois de juillet, entre 15 000 et 13 500 dollars pour un Bitcoin. Donc, on voit, on a de nombreux actifs comme ça qui sont près de niveaux majeurs. qui, en cas de cassure, eh bien, pourrait, je dirais, nous envoyer de nouveaux signaux. Et le fait d'avoir un indice parisien et aussi le DAX, hein, qui évolue sur des niveaux de support proches majeurs, eh bien, peut faire craindre effectivement une poursuite du mouvement baissier. Tant que l'on reste sur le CAC 40 sous la zone des 6200 points, eh bien, on reste dans une perspective baissière. Il n'y a pas espoir de retrouver un rebond ou un retournement de tendance à la hausse.
Merci beaucoup, Gilles. Gilles Santacreux, donc, depuis boursicoté.com, qui nous accompagne régulièrement pour prendre le pouls technique et graphique de la séance du jour. Le marché parisien, donc, qui perd 0,43%, 6078 points. Ailleurs en Europe, la tendance est assez similaire, moins 0,3% pour l'euro Stoxx 50, l'eurodoll à 99,07.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Chaque milieu de semaine, on fait le point sur le marché des matières premières. À l'heure où l'on entend de plus en plus parler de récession, comment les cours des matières premières telles que le pétrole, l'or ou d'autres métaux évoluent-ils ? On écoute l'éclairage apporté il y a quelques jours par Benjamin Louvet pour OFIAM. Il répondait à Vincent Touraine.
J'avais eu l'occasion d'en parler un peu sur votre antenne déjà pendant l'été. On voyait, nous, plutôt une stabilisation sur les niveaux de 100 $, parce qu'il y a pas mal de phénomènes contradictoires. C'est vrai qu'il y a eu une grosse inquiétude sur la croissance, justifiée hein, d'ailleurs, et qui dit moins de croissance dit moins de consommation pétrolière, ce qui a poussé les investisseurs à moins investir dans le pétrole et à attendre une baisse des prix. Et puis, il y a eu pendant l'été cette bonne nouvelle des négociations avec l'Iran qui avançait, et le marché s'est dit que potentiellement, on pourrait avoir à peu près 1 million à 1 million et demi de barils par jour qui pourraient revenir sur le marché et permettre d'équilibrer l'offre et la demande, avec un peu moins de demande d'un côté à cause de la récession, la problématique de la politique zéro Covid en Chine aussi, qui ralentit l'activité dans cette zone-là, et en même temps un peu plus d'offres avec l'arrivée du pétrole iranien, qui reste encore très hypothétique. Mmh. Maintenant, si on essaye de se projeter un peu, on est quand même loin d'être sorti d'affaires. On a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est l'envolée du prix du gaz. Alors, ça peut paraître un peu incongru de parler de tout ça au milieu du pétrole, mais c'est important parce que certains industriels peuvent choisir d'utiliser du pétrole ou du gaz.
Faire un switch. Ce que font les Allemands en ce moment.
Entre le gaz et le pétrole, ouais. Effectivement. Et aujourd'hui, il faut savoir que le prix du gaz en équivalent énergétique est à peu près 4 à 5 fois le prix du pétrole. Mmh. Et donc, on s'attend à avoir potentiellement des substitutions de gaz par du pétrole, ce qui voudrait dire qu'on pourrait retrouver à peu près 500 000 barils par jour de demandes supplémentaires en provenance de ce switch en Europe, et potentiellement 1 million ou 1 million et demi de plus au niveau mondial. Donc, c'est un premier facteur de hausse de la demande. Le deuxième point, c'est que la Chine, si elle est dans une politique zéro Covid, essaye de s'en sortir, et puis, si elle a des difficultés avec son secteur immobilier, a mis en place des mesures, un plan de relance juste avant l'été, qui était le troisième plus gros plan de relance de son histoire, mais également deux baisses de taux récemment, pour essayer de venir en soutien un peu de l'activité économique, donc peut-être un petit regain d'activité de la part de la Chine. Et puis, on a côté offre, un autre problème, c'est que, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, on a normalement un embargo de l'Europe sur le pétrole russe.
Pétrole russe, oui.
Et donc là, on perdrait à peu près 1 500 000 barils par jour de production sur l'ensemble du pétrole et des produits raffinés. Et puis à côté de ça, on a eu aussi un équilibre qui s'est fait parce que les Américains ont libéré une partie de leur stock stratégique au cours des derniers mois. Et ça se terminera fin octobre. Donc là aussi, on va arriver un peu au bout de ce mouvement-là.
Et tout ça va prendre le dessus sur tout ça, les effets d'une récession ou d'un ralentissement marqué de l'économie mondiale.
C'est difficile. On est vraiment en ce moment sur le secteur des matières premières dans une situation qui est très, très difficilement lisible parce que il y en a, vous voyez, un peu dans tous les sens, ça tire aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est pour ça qu'on voyait, nous, plutôt un prix d'équilibre à 100 $. On maintient cette vue, voire peut-être un petit peu plus parce qu'il y a eu une dernière nouvelle ces derniers jours, une interview du prince héritier saoudien qui a déclaré que la volatilité des prix était sans commune mesure avec le marché physique et que l'OPEP Plus pourrait envisager de réduire sa production, ce qui pourrait, et notamment il a fait ça peut-être pour préparer et dire attention, si le pétrole iranien revient, nous on en tiendra compte pour réduire notre production, et donc pour nous le prix du pétrole aujourd'hui devrait se stabiliser autour des 100 $105 le baril, en fonction qu'on parle du Brent ou du WTI.
Il va falloir s'habituer à ce niveau-là.
Il faut s'habituer à des prix d'énergie chers d'une façon générale.
Ouais.
Un autre exemple, juste rapidement sur ce sujet.
Oui, parce qu'il faut garder un peu de temps pour les métaux, pour l'or aussi.
Rapidement sur ce sujet, aujourd'hui, le prix du mégawattheure en Allemagne, en équivalent énergétique, est équivalent à un prix du baril à $1000.
Oui.
$1000. Donc on voit bien que le marché, il y a une totale dislocation du marché de l'énergie. Il va falloir s'habituer à vivre avec des prix d'énergie plus chers. Alors il y aura moins d'inflation parce qu'on aura des effets de base, mais on va se stabiliser sur des prix très élevés qui seront pénalisants pour l'économie.
Et les métaux, Benjamin, les métaux industriels, là aussi beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. Quelle est la tendance de fond ? Ils avaient plutôt tendance à se calmer.
On a beaucoup corrigé, justement, à la suite de la politique zéro Covid. Pour rappel, Patrick Artus leur disait ce matin sur votre antenne, la Chine consomme entre 50 et 55% de tous les métaux de la planète. Donc, quand la Chine ralentit, évidemment, la consommation de métaux ralentit. Et le marché a pricé ça, plus une potentielle récession. Je pense que ces éléments-là sont essentiellement pricés, sauf si on devait avoir une récession sévère aux États-Unis, qui, pour l'instant, n'est pas pricée. De l'autre côté, ce que le marché, pour l'instant, fin d'ignorer, à mon avis, ce sont les conséquences de la crise énergétique en Europe. On en revient toujours à la même chose, mais il faut bien voir que depuis le début de l'année, on a Glencore, on a Nyrstar, on a Alcoa, on a une société aussi installée en Slovaquie, qui sont des raffineurs de métaux en Europe, et qui, compte tenu de la hausse très forte des prix d'énergie, ces industries sont très consommatrices d'énergie, ont décidé de fermer une partie de leurs activités. Et il y a un gros fondeur d'aluminium allemand qui a annoncé ce matin qu'il réfléchissait à ça aussi. Donc il y a aussi beaucoup de risques de ce côté-là. L'impact de la Chine qui pourrait décider de soutenir encore plus son économie va être important. Et puis, il y a un autre élément majeur, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est la transition énergétique. Mmh. Et là, les nouvelles sont importantes parce que récession ou pas, on n'a plus le choix. Il faut qu'on avance sur cette transition énergétique. Et les nouvelles, quand on regarde les chiffres en Chine, par exemple sur le cuivre, on constate que depuis le début de l'année, la croissance de la demande de cuivre en provenance du secteur green, on va dire, du secteur vert, c'est-à-dire smart grid, évolution des réseaux électriques, voitures électriques, et éolien et solaire, la croissance de la demande de cuivre dans ce secteur-là est supérieure à la destruction de demande dans le secteur de l'immobilier en Chine. Donc, on est bien sûr...
Qui est mal en point, l'immobilier en Chine.
Et d'ailleurs, les stocks de métaux continuent de baisser. Et les structures de prix à terme nous indiquent plutôt toujours un marché, pas forcément en forte tension, mais un marché qui reste quand même très fragile, avec un risque de repartir à la hausse très fortement si on devait avoir une petite étincelle côté Chine, par exemple, sur la reprise de la croissance.
Donc un pétrole qui va rester cher, des métaux qui risquent d'être eux aussi plus chers.
La tendance à long terme sur les métaux, pour moi, compte tenu des besoins nécessaires pour la croissance verte, fait que les prix n'auront qu'un sens. C'est d'ailleurs une étude, un white paper du FMI mentionnait la même chose et parlait de hausses qui pourraient atteindre plusieurs centaines de pourcents d'ici 2030.
Plusieurs centaines de pourcents. On ne peut pas se quitter sans parler de l'or, des métaux précieux. Un peu décevant l'or quand même, par rapport au niveau du printemps dernier où on n'était pas loin des $2000 l'once, me semble-t-il. Là, on est quoi, 1750, 1760 ça. Ça garde quand même de l'intérêt dans un portefeuille.
Bien sûr, on vivote aujourd'hui pour une raison simple. Vincent, je rappelle, il y a un lien direct.
Vous pouvez dire qu'avec la guerre en Ukraine, les incertitudes,
c'est ce qui permet
l'inflation.
Alors, quelque part, de ne pas avoir baissé davantage.
Ouais.
Je m'explique, l'or est un actif qui n'a pas de rendement. Donc, ils trouvent moins d'intérêt dans les portefeuilles quand les taux d'intérêt réels remontent. Mmh. Or, aujourd'hui, les banques centrales sont toutes dans
un cycle
de resserrement monétaire. Mmh. Les taux réels remontent et donc ça pèse sur le cours de l'or. La question, c'est jusqu'où peut-on remonter les taux d'intérêt réels sans déclencher une crise économique avec une récession. Crise économique, ça veut dire que les investisseurs sortent des actifs risqués, baissent des actions, vont sur les obligations, baissent des taux et donc généralement se reportent sur les valeurs refuges et notamment sur l'or et le dollar. Donc on pourrait, pour nous, aujourd'hui ça a plus que jamais son importance dans le portefeuille, dans un portefeuille compte tenu des risques qui pèsent sur l'économie mondiale. Oui.
On doit vous demander toujours la même chose, quelle proportion d'un portefeuille équilibré.
Et je fais toujours la même réponse, ça dépend. Vous allez me dire ça dépend, ça dépasse forcément.
On parle de l'or physique, hein.
Hors physique ou hors papier, les deux.
Hors papier, quoi, des ETF. Alors,
des
ou
ETF. Il y a des très bons.
Des mines.
Il y a des très bons.
Des actions de mines.
Alors, je suis plus hors matières premières parce que les compagnies minières aurifères vont avoir des gros challenges dans les années qui viennent parce que la production d'or a tendance à baisser. Donc, il va y avoir une consolidation qui va devoir se faire et il va y avoir des investissements très lourds qui vont devoir se faire. Donc, des capex très importants qui, dans un premier temps, pourraient limiter la profitabilité de ces sociétés. Donc je préfère être sur l'or. L'or peut monter sans les sociétés minières, les sociétés minières peuvent pas monter sans l'or. Donc je préfère avoir de l'or, avoir un peu des deux n'est pas complètement saut. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de votre aversion au risque, parce que c'est un marché qui baisse beaucoup. Mmh. On va dire que pour un portefeuille qui accepte beaucoup de risques, on peut aller jusqu'à 8-10%. Dans un portefeuille très conservateur, c'est 2-3%. Et un portefeuille central, on va dire que c'est aux alentours de 5%.
Le dollar qui monte, ça a une incidence sur
le
cours de l'or ?
Sur l'ensemble des matières premières.
Sur le pétrole, on sait.
On a échangé au niveau international en dollars. Donc quand le dollar monte, le pouvoir d'achat des autres monnaies a tendance à reculer. Et donc la demande de matières premières a tendance à un peu reculer.
Mais là, c'est pas ce qui se passe sur le pétrole. Hein, parce qu'on a les deux qui montent, le dollar et le pétrole.
C'est ça. Après, vous avez des problématiques fondamentales sur le pétrole qui, aujourd'hui, justifient que les deux montent en même temps. Et le seul cas où l'or et le pétrole ont tendance à monter, c'est dans les périodes de crise parce qu'ils sont tous les deux considérés comme des valeurs refuges.
Benjamin Louvet, OFIAM, qui nous accompagne très régulièrement dans BFM Patrimoine pour lire ce marché des matières premières. Il répondait il y a quelques jours à Vincent Touraine. Petit coup d'œil sur les constantes de marché, moins 0,43 pour le CAC. On est à 6078 points. Le pétrole, 93,06 pour le Brent. L'eurodoll, 99,07.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
Et pour gérer la sélection cette semaine, deux de nos gérants sont avec nous. En plateau, Jean-François Gilles pour Erasmus Gestion. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Et en ligne depuis Fastea Capital, Thibaut François. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric, bonjour
Jean-François. Merci à tous les deux d'être présents au rendez-vous de la gestion de cette sélection. D'abord, votre sentiment sur ce marché avec tant et tant de questions entre la force du dollar, la faiblesse de l'euro, le prix des matières premières, on vient de l'évoquer, la Banque Centrale Européenne. Enfin, Jean-François, on ne manque pas de matière pour gamberger et c'est ce qui explique peut-être cette phase d'hésitation de l'indice.
Oui, je crois que c'est exactement ça. On a quand même deux rendez-vous, l'un immédiat avec la BCE, un autre proche avec la Fédérale Réserve. On nous annonce dans les deux cas des hausses de taux directeurs significatives. Effectivement, ça a des conséquences, tout cela, sur à la fois les taux d'intérêt de marché, mais aussi les devises et aussi la valorisation des marchés actions. Donc je crois qu'on est dans cette phase d'attente et puis j'espère qu'on y verra plus clair dans quelques semaines.
Quelques heures même pour cette Banque Centrale Européenne d'abord.
Oui.
Thibault, vous aussi un peu attentiste, un peu à guetter effectivement si ce sera 50, si ce sera 75 et puis peut-être aussi connaître l'ampleur du discours.
Ouais, pour l'instant, le marché se cherche. Alors, effectivement, le 50-75, ça ne va pas changer grand-chose, en tout cas dans notre vision vis-à-vis des entreprises. Là, le marché se cherche et cherche surtout, on va dire, un niveau de valorisation de l'ensemble des actifs en fait qui existent sur le marché. On s'aperçoit que c'est très volatile sur le pétrole, sur les matières premières en général. On s'aperçoit que sur les marchés actions, c'est extrêmement volatile d'un secteur à l'autre ou même d'une zone géographique à l'autre. On vit pas au même rythme d'une zone géographique à l'autre. On s'aperçoit aussi que le marché obligataire, qui est d'habitude un petit peu moins volatile que le marché actions, on a eu un écartement des spreads de façon considérable depuis quelques mois. Les taux remontent et donc on recherche... On essaye de stabiliser les rendements des différentes obligations. On s'aperçoit que les obligations investment grade commencent à être de nouveau plus rémunératrices, que le AID a plutôt bien résisté par rapport au investment grade. Donc le marché se cherche. On cherche des points de repère sur les prochaines semaines ou les prochains trimestres. Et c'est extrêmement difficile d'avoir une prévision qui soit un petit peu cohérente pour les prochaines semaines. Donc on essaye de naviguer un petit peu à vue, mais c'est vraiment compliqué d'avoir une vraie vision moyen terme du marché actuellement.
Voilà pour le cadre général dans lequel évolue le marché et donc dans lequel doit s'insérer notre sélection. Qu'est-ce qu'on peut dire de son comportement ? On va y revenir, hein, mais voilà, il va y avoir des évolutions aujourd'hui. Hein.
Il va y avoir des évolutions en effet. On prend une décision aujourd'hui, à la veille de ces deux rendez-vous avec les banquiers centraux, tout simplement parce que, comme Thibault l'a bien expliqué, il va y avoir du tumulte autour de ces rendez-vous avec les banquiers centraux. Il va y avoir sans doute des hausses de taux significatives et on a bien vu que par anticipation déjà depuis hier, il y a une nouvelle hausse du 10 ans, du taux 10 ans américain. Il est aujourd'hui, je crois, à 3,35. Et il se pourrait bien qu'il soit encore au moins 50 centimes plus haut d'ici la fin de l'année. Donc là, on a deux semaines particulièrement tumultueuses et on va se mettre un petit peu à l'abri. On va avoir une augmentation de notre trésorerie de façon à ce que s'il y a des creux en octobre, novembre, on puisse alors acheter à meilleur compte.
Vous êtes aussi dans cette ligne-là, Thibault, qui chauffe depuis la rentrée. Hein. Vous avez déjà pas mal papoté ensemble, tous les quatre. On rappelle qu'il y a aussi Amandine Gérard et François Chollet qui contribuent à la gestion de cette sélection pour augmenter finalement la part de cash.
Oui, c'est un choix tactique. Hein. C'est pas un choix micro. C'est vraiment un choix tactique. C'est-à-dire, on fait plus de cash alors au détriment de deux valeurs. On va le voir tout à l'heure. Mais c'est pas forcément parce que ces valeurs sont les fondamentaux se sont dégradés. C'est vraiment tactiquement, on prend un peu moins d'exposition action pour les prochaines semaines parce que effectivement il risque d'y avoir beaucoup de volatilité sur les marchés et c'est pas impossible qu'on puisse retrouver des prix d'actifs un petit peu plus bas dans les prochaines semaines parce que pour l'instant on sait strictement rien de ce qui va se passer dans les en termes de volatilité, en termes d'inflation ou en termes de récession, pourquoi pas aux États-Unis ou en Europe. Donc pour l'instant on s'attend à une forte volatilité des actifs et donc pourquoi pas racheter plus bas après sur le marché actuel.
Alors, les arbitrages du jour, parce que vous nous dites, et bon, effectivement, c'est avant tout tactique, etc., plus que micro, mais bon, il y a quand même un des arbitrages que l'on fait ce matin, que vous avez voté, c'est Esker, notre vilain petit canard. Jean-François, ça y est, on a décidé de se couper le bras ou l'avant-bras, enfin, je sais pas comment on dit, c'est vrai qu'on perd quand même
64%.
Ouais.
64%, c'est terrible.
Mais à culpa, c'est ça ?
Mais à culpa, exactement. En fait, l'évolution à la fois de l'économie, d'une part, et des taux d'intérêt, d'autre part, est négative pour Esker. C'est-à-dire que la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des résultats, est passée d'une zone de 20% à une zone de 10%. Mais en même temps, la hausse des taux d'intérêt fait que les valeurs dites de la nouvelle économie, les valeurs de croissance, les valeurs Nasdaq, se payent moins cher. Et on s'aperçoit que Esker, aujourd'hui, ne peut plus espérer rebondir fortement dans une période où les taux vont monter. En conséquence, et en désespoir de cause, on coupe une entreprise qui nous a coûté, pour l'ensemble du portefeuille, 3,2% de performance depuis le début de l'année. Donc elle nous a coûté très très cher. Nous sommes aujourd'hui à moins 15,6. L'indice est à moins 12,3. Vous voyez, ça nous a coûté 3,2.
Donc, Esker nous mettrait... Enfin, c'est Esker qui nous met sous le CAC.
Oui.
Bon. Thibault, voilà, pas de... Enfin, si des regrets, mais je veux dire, pas de regrets de couper cette ligne ?
Non, alors c'est pas un dossier que je connais beaucoup, Esker, mais effectivement, c'est une valeur qui est... Sur les niveaux de valorisation en tant que tel, pour moi, les niveaux de valorisation sont trop élevés, malgré encore la baisse du titre depuis le début de l'année. Donc effectivement, ça fait pas partie de notre screening aujourd'hui d'investir sur des dossiers comme Esker. On pense qu'il y a mieux à faire sur le marché actuel.
Voilà donc pour le premier arbitrage du jour qui sera donc effectué, vous connaissez la règle, demain au cours d'ouverture, la sortie d'Esker qui effectivement nous aura coûté cher lors de son passage au sein de notre sélection. Et puis autre titre arbitré ce matin, c'est BNP Paribas. Pourtant, on était assez gourmand de nos banques, non Thibault ?
Ouais, BNP, c'est un choix. Alors, c'est encore une fois, c'est un choix tactique. On s'attend à une forte volatilité du marché, donc on s'attend, pourquoi pas, une récession dans les prochains trimestres aux États-Unis et en Europe. Et donc, qui dit récession dit des valeurs financières mises sous pression par les investisseurs. Donc, on s'attend à une forte volatilité des banques dans les prochaines semaines. Alors qu'à contrario, une remontée des taux de la Fed et des BCE améliorerait le PNL des banques et notamment de BNP. Donc c'est vrai qu'on s'attend à du mieux d'un point de vue résultat pour BNP dans les prochains trimestres, mais le risque récession fait que les investisseurs risquent de vendre le les entreprises financières, donc une pression vendeuse qui risque d'intervenir sur l'ensemble des banques européennes et américaines. Donc on prend des bénéfices sur BNP, sachant qu'on peut éventuellement la retrouver un petit peu plus bas sur le marché financier dans les prochaines semaines. Donc prise de bénéfices effectivement sur BNP ce matin.
Pourquoi avoir fait un choix justement sur ce secteur bancaire, Jean-François ?
En fait, nous avons deux titres bancaires, la Société Générale et la BNP. La BNP s'est relativement correctement comportée cette année, même si le secteur n'a pas été à l'honneur. Et elle a une capacité de rebond qui nous semble inférieure à la Société Générale. Thibault a très bien expliqué. Avec les hausses de taux à venir, la probabilité d'une récession va augmenter, notamment en Europe. Et dans ce cas-là, les investisseurs vont penser... probabilité de récession, davantage de défaillances d'entreprises et davantage de créances douteuses chez les banques. Et c'est ça qui risque de perturber le cours du secteur bancaire dans les semaines qui viennent avec les deux hausses des taux que nous attendions.
BNP Paribas, donc, qui pareil sortira demain au cours d'ouverture, bien évidemment. Du coup, on est arrivé à la part de cash, entre guillemets, confortable ou il va falloir aller plus loin? Thibault, comment voyez-vous les choses chez Fastea?
Pour l'instant, on va être bien avec ce niveau de cash-là. On va surtout attendre un petit peu de voir un petit peu comment va se stabiliser le marché et la visibilité qu'on va pouvoir avoir sur la croissance et sur l'inflation et les indications qu'on va donner à la Fed et la BCE. Donc pour l'instant, on a du cash. On pourra faire face s'il y a des tumultes de marché dans les prochaines semaines. Et si le marché ne baisse pas, il y a tellement d'opportunités d'investissement et il y a certaines valorisations qui sont tellement basses qu'on pourra réinvestir tranquillement sans toucher à la performance du portefeuille. Donc pour l'instant, c'est en position d'attente et derrière, on espère saisir les opportunités.
Vous êtes du coup aussi à l'aise avec ce nouveau niveau de cash de demain matin, Jean-François?
Oui, ouais. pour les 3-5 semaines qui viennent, ouais. Ça me semble raisonnable.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir géré cette sélection. On vous rappelle donc la sortie d'Esquerre et de BNP Paribas effectuée demain matin au cours d'ouverture. Donc Thibault François, Fastea Capital et Jean-François Gilles pour Erasmus Gestion géraient cette semaine la sélection. Dans un instant, 60 minutes business et Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Le programme du jour.
On va parler de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage au menu du Conseil des ministres. Le but à terme, c'est de moduler les conditions d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Est-ce que c'est faisable? On posera la question à Caroline Morisseau et Jean-Marc Daniel. Dans notre focus, on parlera des pénuries de personnel. Ça arrive aussi aux pharmaciens, figurez-vous. 15 000 personnes manquent au secteur et ça a une incidence sur les ventes d'officines. On en parlera avec notre invité. Et puis, on parlera aussi des courtiers, des prêts immobiliers, du taux d'usure, des refus de dossiers avec David Pombeau, cofondateur de Bankstore, qui sera avec nous à 12h10. Et puis, à 12h30, on répondra aux questions de nos auditeurs, téléspectateurs avec Lorraine Goumeau.
C'est à suivre, 60 minutes business. Sandra Gandoin, le CAC 40, lui, perd 0,43%, 6078 points. Et nous, on se retrouve demain à 10h pour une nouvelle session de BFM Patrimoine. Je vous souhaite une très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.